Vous êtes sur RTL.
Instant, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 7 avril. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord cet appel des médecins, il faut continuer à se soigner. Pendant l'épidémie, les autres maladies ne font pas relâche. Il y a d'abord les maladies chroniques et puis ces accidents qui peuvent survenir n'importe quand, chez n'importe qui, les défaillances cardiaques, les AVC. Visiblement en ce moment, les patients hésitent à se rendre aux urgences, soit pour ne pas déranger, soit par peur d'être contaminés par le coronavirus. Sophie Crozier est neurologue et responsable de l'unité de soins intensifs neurovasculaires à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Il est hyper important que les patients qui ont des symptômes aigus, que ce soit une douleur dans la poitrine ou une suspicion d'accident vasculaire, c'est-à-dire une paralysie brutale d'un côté du corps ou une difficulté à parler, il faut absolument qu'ils appellent les secours, c'est-à-dire soit le 15, soit le 18. Or aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que les patients n'arrivent plus dans nos unités. Depuis environ 3 semaines, on a tous noter une diminution d'activité qui est de l'ordre de 50 à 70%. C'est peu probable que d'un seul coup, il y ait une diminution des accidents vasculaires cérébraux dans la population. Donc on est un peu inquiet parce qu'on se demande en fait s'il n'y a pas des retards de prise en charge.
Propos recueillis pour RTL par Julien Fautra.
Alors si on résume, c'est un peu trop calme aux urgences, mais dans les services de réanimation, on sature.
Hein. C'est vrai, le nombre d'admissions commence à reculer et c'est un signe encourageant, mais on reste à plus de 7000 patients dans toute la France, ce qui est énorme. Et par endroits, on est au bord de la rupture. C'est le cas à l'hôpital de Jossigny en Seine-et-Marne. Le service est plein, on manque de médicaments, de matériel aussi. Valérie est aide-soignante, elle travaille avec une tenue à moitié déchirée.
Donc là, je me rhabille avec des gants propres, mais je garde la même tenue parce que j'ai pas le choix. Comme vous pouvez constater, j'ai juste une tenue qui est déchirée sous les bras, car évidemment, ce n'est pas des tenues qui sont adaptées. C'est des tenues qui viennent de je ne sais pas où en plastique. Voilà.
Ça va, ma belle ? Je peux ouvrir les yeux ?
2000 en charge.
Là, par exemple, c'est un patient qui est conscient, qu'on arrive à réveiller tout doucement. Donc, évidemment, on lui parle, on le rassure, on lui explique pourquoi il est là, qui visiblement semble beaucoup mieux. Et voilà, on dit que ça peut être un petit bonheur. Là, ce week-end, on n'a pas de quoi se protéger. On nous propose des ponchos de chez Euro Disney. On s'est retrouvé en fin de garde sans blouse manche longue. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec une cadre supérieure en fait, qui est censée partir de l'hôpital et qui revient juste pour nous aider. On a beaucoup d'entreprises qui viennent nous ramener de la nourriture. Alors voilà, c'est chaque petit bonheur, il va falloir le prendre en fait, autour de toute cette catastrophe. On va essayer en tout cas.
Valérie, aide-soignante en réanimation au micro RTL de Nicolas Burnand. Le ministre de la Santé l'a dit hier, nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. De fait, la journée d'hier a enregistré le pire bilan quotidien depuis le début de l'épidémie. 605 décès à l'hôpital. Le total approche les 9000 morts, dont plus d'un quart dans les EHPAD. L'un des exemples les plus saisissants, c'est sans doute celui de l'EHPAD Rothschild à Paris. Près de 500 résidents, dont d'anciens rescapés de la Shoah. Un résident sur quatre est contaminé. L'établissement est dévasté par le virus, Thomas Dulin.
Oui, et pour les familles impuissantes des résidents, s'ajoute à cette situation dramatique un manque criant d'informations. Pour beaucoup, le seul contact qui les lie à leurs proches, ce sont ces newsletters envoyés par la direction. Quelques mails depuis 3 semaines actualisant les pertes humaines. Au moins 34 morts, 120 résidents contaminés. Cet EHPAD, l'un des plus grands de Paris, est aussi l'un des plus durement touchés par le virus. Il y a quelques jours, une entreprise est venue y livrer des cercueils. Pour le reste, difficile de connaître la situation entre les murs. Équipe de soins, secrétariat médical, cellule psychologique, personne au bout du fil, d'après la fille d'une résidente. Après de nombreuses tentatives, elle a tout de même réussi à avoir sa mère au téléphone. Cette dernière expliquant qu'on lui avait mis quelque chose dans le nez. Contaminée par le virus depuis plusieurs jours, sa fille n'était pas au courant. La gravité de la situation semble avoir été prise en compte bien tard par l'établissement, pris de court par la vitesse de propagation du virus. Aujourd'hui, l'établissement fait face à une pénurie de soignants, certains contaminés, d'autres ayant exercé leur droit de retrait. Alors la direction l'assure, chaque absence est remplacée et des mesures ont été prises, mises à l'écart des patients non contaminés, arrivée de matériel de protection et mise en place de rendez-vous Skype entre les résidents et leurs familles.
Récit RTL signé Thomas Dulin. Pour enrayer la propagation du virus dans les maisons de retraite, Olivier Véran annonce une vaste campagne de dépistage auprès des personnes âgées et du personnel.
7h35, sur cette question, des tests comme sur les masques, le gouvernement a changé de doctrine.
Oui, l'idée c'est désormais de tester adaptée à tout va pour mieux gérer le confinement et surtout le déconfinement. Première étape la semaine dernière, un décret a autorisé des tests dans les laboratoires de ville. Ils sont sans ordonnance et donc non remboursés par la Sécu, mais accessibles à tous. Autre mesure, le recours aux laboratoires vétérinaires. Jean-Louis Huneau est le président du syndicat de l'industrie de la santé animale. Il était l'invité des petits matins d'RTL. Il a le feu vert pour effectuer des tests, mais il manque une autorisation pour délivrer les diagnostics et il s'impatiente.
Nous avons le savoir-faire. Nos entreprises ont le même niveau d'exigence et de qualité que les laboratoires qui travaillent en santé humaine. Nous avons des capacités très importantes dans les deux côtés, dans ce que l'on appelle les tests PCR, qui sont maintenant bien connus. On peut produire chaque semaine de l'ordre de 150 000 à 300 000 tests assez facilement. Et nous avons aussi des capacités très importantes en sérologie, où là, nous pouvons aussi monter probablement jusqu'à 1 million de tests par semaine. Nous sommes mobilisables, nous sommes prêts, et notre volonté, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé en France.
On entre aujourd'hui dans la 4e semaine de confinement. Avec les vacances et les beaux jours, le gouvernement redoute un relâchement des comportements. Et Christophe Castaner laisse au préfet la possibilité de durcir les mesures de confinement. Par exemple, limiter la pratique sportive. C'est ce que s'apprête à faire Christian Estrosi à Nice, avec des plages horaires restreintes. Le maire veut également imposer le port du masque en public. Même décision à Cannes, Mandelieu et Sceaux, en région parisienne. Des masques, la France en a commandé 1 milliard au moins, mais le pont aérien avec la Chine est interrompu. C'est une information RTL. Deux vols Air France Paris-Shanghai ont été annulés hier et aujourd'hui. En cause, un nouveau règlement sanitaire chinois plus strict qu'auparavant. Les avions sont bloqués à cause d'un pilote testé positif. Conséquence heureuse de cette crise sanitaire, les crimes et délits sont en net recul avec une population confinée. Les chiffres indiquent une baisse d'environ 45% par rapport à février. En revanche, les violences conjugales sont en forte hausse, environ un tiers de plus. On parle beaucoup des mesures destinées aux victimes, mais en fait, il faut aussi s'occuper des auteurs de violences. Prendre le mal à la racine en quelque sorte. C'est ainsi qu'un numéro national vient d'être mis en place. Explication d'Alain Legrand, il est le président de la Fédération nationale d'accompagnement des auteurs de violences.
Le but premier, c'est de permettre à des gens de pouvoir s'exprimer alors qu'ils ressentent en eux des choses compliquées qui risquent de les conduire à la violence ou qui les a déjà conduits à la violence. Les mots que j'ai pu entendre, c'est « j'arrive plus à me contrôler », c'est « ça devient insupportable », »,« aidez-moi, j'en peux plus », enfin, voilà, c'est des mots comme ça. Un exemple concret, c'est le sentiment d'être rejeté par l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire, on est obligé d'être confronté avec l'autre. Ça aggrave le risque de passage à l'acte et d'une situation qui ne trouve pas à se résoudre.
Propos recueillis pour RTL par Guillaume Chiez. À l'étranger, vive inquiétude autour de Boris Johnson qui a été admis en soins intensifs hier. Le Premier ministre britannique est le premier dirigeant malade du coronavirus. Il avait été hospitalisé dimanche soir après 10 jours de fièvre et son état s'est brutalement dégradé hier après-midi. Selon son entourage, il s'agit seulement d'une mesure de précaution au cas où il aurait besoin d'un respirateur. Depuis 10 jours, Bojo continuait à gérer la crise. Cette fois, il a passé la main à son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab.
C'était le Tout Info avec...